Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve eşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike lah ve eşhedü enne Muhammeden abdullahi ve resuluh sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ba'd, fehada huve liyum es-sabi'a aşar min şehri zilqi'de min ami 1440 min hicreti nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve nahnu fi dersi s-sadis fi qiraati risaleti tebukiyye lil imam ibn al-qayyim rahimahullah. Nous sommes le 20 juillet 2019 et nous voici réunis pour le sixième cours de la lecture de ce conseil écrit par l'éminent savant l'imam ibn al-qayyim qu'il a intitulé ou qui a été intitulé la lettre de Tabouk, qui est un conseil qu'il a adressé lors de son retour du Hajj, comme nous l'avions dit en introduction, lorsqu'il était dans la région de Tabouk, dans la péninsule arabique, et il adressa ce conseil à des co-religionnaires se trouvant dans la région du Sham, vers la Syrie. Et dans cet écrit, il les conseille et les oriente vers l'émigration al-Hijra, vers Allah, subhanahu wa ta'ala, l'émigration du cœur, et aussi l'émigration vers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en expliquant ce que cela veut dire, bien entendu. Et nous sommes toujours dans le chapitre concernant l'obligation, le devoir que le musulman a d'émigrer vers le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, en délaissant toute autre voie que la sienne, et en s'y attachant, en imitant les faits et gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en le prenant pour juge et en ne contredisant pas la voie avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé. Et c'est, comme nous l'avions dit, un des plus longs chapitres de cet écrit, celui de l'émigration vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel l'auteur rahimahullah a cité plusieurs textes du Coran montrant l'obligation de le suivre. Et nous nous sommes arrêtés en pleine étude du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit « An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim » Le prophète a plus de droits envers les croyants qu'ils n'en ont pour eux-mêmes. Dans ce verset, nous avions pu lire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être pris non seulement en exemple, modèle par les croyants, mais ils doivent le faire passer avant leurs intérêts et leurs propres personnes. Parce que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam contient le meilleur de ce dont a besoin l'homme dans cette vie d'ici-bas, et met en garde contre le pire et tous les maux que l'homme dans cette vie d'ici-bas redoute. Et l'auteur, rahimahullah, a exprimé son étonnement devant des personnes se prétendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et prétendant le considérer comme étant prioritaire par rapport à leur propre personne, pour les voir ensuite aller s'occuper avec les paroles d'autres que lui, les avis d'autres que lui, et chercher à prendre pour juge autre que lui et sa voix sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu que les gens qui agissent ainsi, Allah Azza wa Jal en a parlé en disant wa in talwu aw tu'ridu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira. Dans le sens rapproché du verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et l'auteur nous dit que ce verset contient de nombreux secrets qu'il va étaler ici, car le besoin est grand de les connaître. Mais avant de les citer, il va citer le verset dans son entièreté. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Ô vous qui avez eu la foi, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques, comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux. Allah a priorité sur eux deux, et il est plus connaisseur de leurs intérêts que vous. Ne suivez donc pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah va attirer notre attention sur quelques points de ce verset. فَأَمَرَ سُبْحَانَهُ بِالْقِيَامِ بِالْقِسْطِ وَهُوَ الْعَدْلِ وَهَذَا أَمْرٌ بِالْقِيَامِ بِهِ فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ عَدُوًا كَانَ أَوَّلِيًّا وأحق ما قام له العبد بالقسط الأقوال والآراء والمذاهب إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره فالقيام فيها بالهوى والعصبية مضاد لأمر الله مناف لما بعث به رسله والقيام فيها بالقسط وظيفة خلفاء الرسول في أمته وأمنائه بين أتباعه ولا يستحق اسم الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده. C'est-à-dire, Allah exalté soit-il, nous a ordonné dans ce verset d'observer strictement la justice, d'appliquer sur terre l'équité. Et cet ordre d'appliquer sur terre la justice, de l'observer strictement, concerne tout un chacun. Ça peut être à l'égard d'une personne qui nous est ennemie et une autre qui nous est alliée. Le musulman a l'obligation d'être juste lors des différends dans lesquels il est amené à être opposé à autrui. Cet autre peut être un allié, il peut être un proche parent, il peut être un ami, il peut être quelqu'un qui est tout simplement ennemi. Mais lorsqu'il va se conduire avec lui, il doit observer la justice. Et le domaine qui est le plus en droit de voir se manifester sur lui l'équité et la justice, nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, ce sont les avis, les paroles, les méthodologies. Quand on parle de religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit être juste et on doit observer l'équité et la justice en termes de paroles, de ce que l'on dit, de ce en quoi on croit, de ce à quoi on adhère. C'est l'équité qui doit être établie. L'auteur Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit que celui qui, dans les paroles, dans les avis, dans les croyances, se base sur ses passions ou sur l'esprit de clan ou le fanatisme, il aura contredit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et annulé ce avec quoi les messagers ont été envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que le fait d'observer dans cela et autres la justice et l'équité, c'est le rôle des messagers envoyés par Allah vers sa communauté, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le rôle des successeurs venus après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens qui suivent le haqq, les gens qui établissent l'équité et qui observent strictement la justice, sont considérés comme étant les suiveurs du messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, et ne peut être déclaré loyal et respectant du dépôt qui lui est confié, nous dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, que celui qui observe strictement la justice et l'équité sincèrement envers Allah subhanahu wa ta'ala, pour son livre, pour son messager et envers tous les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là sont les véritables héritiers du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans le hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit « Wa inna al-ulama'a warathatul anbiya » Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit « أولئك هم الوارثون حقا لا من يجعل أصحابه ونحلته ومذهبه عيارا على الحق وميزانا له يعادي من خالفه ويوالي من وافقه لمجرد موافقته ومخالفته. Ces gens-là sont les véritables héritiers, non pas ceux qui font de leurs amis ou de leurs croyances une balance avec laquelle ils mesurent ou ils pèsent la vérité et le faux. Si bien que quand l'un d'entre eux voit quelqu'un en accord avec lui, il le prend en allié. Et quand il voit quelqu'un être en désaccord avec lui, il le prend en ennemi parce qu'il l'a contredit. Non pas parce qu'il a contredit le Coran et la Sunna, mais parce qu'il a contredit sa personne. Et ça, c'est formellement interdit. Car ici, la base n'est plus le Coran et la Sunna. Et la base n'est donc plus la justice et l'équité. Et nous le voyons cela. Nous le voyons lors des disputes qui opposent les uns aux autres. Les gens se fanatisent pour ce vers quoi ils penchent, pour ceux vers qui ils penchent, pour la méthodologie à laquelle ils ont adhéré, en délaissant la réalité du Coran et de la Sunna. Et cela est interdit. فَأَيْنَ هَذَا مِنَ الْقِيَامِ بِالْقِسْطِ الَّذِي فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ وَهُوَ فِي هَذَا الْبَابِ أَعْظَمُ فَرْضًا وَأَكْبَرُ وُجُوبًا. Où est donc la personne qui agit ainsi? Où est donc la personne qui agit ainsi face à l'équité que nous avons le devoir d'établir sur terre? ثُمَّ قَالَ شُهَدَاءَ لِلَّهِ. Dans la continuité du verset, après avoir ordonné d'observer strictement la justice, il nous dit Shuhada alillah, et soyez des témoins véridiques. Ici, je lis comme Allah l'ordonne. Et le plus précis est de dire pour Allah uniquement. Subhanahu wa ta'ala. L'auteur nous dit Wa shahidu huwa al-mukhbir, fa in akhbara bihaqqin fa huwa shahidu 'adlin maqbul. Le témoin, c'est celui qui apporte l'information. S'il apporte une affirmation, réelle et véridique, alors il est considéré comme un témoin intègre et accepté. وَإِنْ أَخْبَرَ بِبَاطِلٍ فَهُوَ شَاهِدُ زُورٍ. Et s'il informe d'une chose fausse, il est considéré comme les gens du faux témoignage. فَأَمَرَ تَعَالَى أن نكون شهداء له مع القيام بالقسط. Allah nous a donc ordonné d'être pour lui uniquement des témoins qui observent strictement la justice. وهذا يتضمن أن تكون الشهادة بالقسط أيضا وأن تكون لله لا لغيره. Cela implique également que le témoignage en lui-même doit être fait avec justice et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ya ayyuha alladhina amanu, kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillah. » Ô vous qui avez eu la foi, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques pour Allah. Et ce verset, il est dans suratul Nisa. Et dans suratul Ma'ida, il y a un verset semblable, mais les mots sont inversés. On y trouve la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuha alladhina amanu, kunu qawwamina lillahi, shuhada'a bil qist. Ô vous qui avez eu la foi, comment traduire cela? Ô vous qui avez eu la foi, je vais lire tout simplement la traduction, au lieu de me fatiguer. C'est le verset 8 de la sourate Al-Ma'ida. Dans le sens rapproché du verset, ô vous qui avez eu la foi, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Donc dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'établir la justice et l'équité et d'être des témoins pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le second, celui de Suratul Ma'ida, Allah Azza wa Jal nous ordonne d'être strict envers Allah, c'est-à-dire dans les devoirs desquels on s'acquitte envers lui, subhanahu wa ta'ala, et d'être des témoins équitables. Les mots ont donc été inversés. Et cela nous apporte un ajout dans l'essence. Et c'est ce que va souligner l'auteur, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, en disant وَفِي الْآيَةِ الْأُخْرَى كُنُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ فَتَضَمَّنَتِ الْآيَتَانُ أُمُورًا الْآيَتَانِ أُمُورًا أَرْبَعَةً. Les deux versets réunis entre eux réunissent quatre choses. La première, الْقِيَامُ بِالْقِسْطِ, l'obligation de s'acquitter de ses devoirs strictement envers Allah. Azza wa Jal. Traduction du sens de la phrase. وَالثَّانِ أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ, que cela soit uniquement voué à Allah. الثالث, troisièmement, الشَّهَادَةُ بِالْقِسْطِ, le témoignage qui lui aussi doit être fait avec équité et justice. رَابِعًا, quatrièmement, أَنْ تَكُونَ لِلَّهِ, que ce témoignage soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَاخْتَصَّتْ آيَةُ النِّسَاءِ بِالْقِيَامِ بِالْقِسْطِ وَالشَّهَادَةِ لِلَّهِ. Ainsi, dans le verset de Surat al-Nisa, ce que l'on voit, c'est l'ordre d'établir l'équité et d'être des témoins pour Allah. وآيات المائدة, et le verset de la Surat al-Ma'idة, بالقيام لله والشهادة بالقسط, d'observer strictement ses devoirs envers Allah et d'être strict dans le témoignage. Dans cela, nous dit l'auteur Ibn al-Qayyim, les sirrin ajib min asrar al-Qur'an, il y a un des grands secrets du Coran, mais il ne va pas le citer ici. Rahimahullah. Il dit, ثم قال تعالى, ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères, ou proches parents, l'ordre d'établir la justice, quand bien même les gens envers lesquels on établit cette justice sont nos proches parents, les plus chers, les plus proches, les plus aimés. Le fait qu'ils soient aimés ne doit pas nous pousser à fermer les yeux sur la vérité et à ne pas la dire. C'est ce que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit فَأَمَرَ سُبْحَانَهُ بِأَنْ يُقَامَ بِالْقِسْطِ وَيُشْهَدَ بِهِ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ. Il nous a donc ordonné d'établir la justice et de témoigner avec justice à l'égard de tout le monde. وَلَوْ كَانَ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى الْعَبْدِ, quand bien même il s'agirait des gens les plus aimés pour la personne. فَيَقُومُ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ, il est donc juste envers sa propre personne. وَوَالِدَيْهِ اللَّذَيْنِ هُمَا أَصْلُهُ, et envers ses deux parents qui sont la cause de son existence. وَأَقْرَبِيهِ الَّذِينَ هُمْ أَخَصُّ بِهِ وَأَلْصَقُ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ, ainsi que les gens les plus proches de lui. فَإِنَّمَا فِي الْعَبْدِ مِنْ مَحَبَّتِهِ لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيْهِ وَأَقْرَبِيهِ يَمْنَعُهُ مِنَ الْقِيَامِ عَلَيْهِمْ بِالْحَقِّ. Car il se peut que l'amour que porte la personne pour ses parents ou les gens proches de lui l'empêche d'être juste quand il fait face à eux, quand il témoigne en parlant d'eux. وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْحَقُّ لِمَنْ يُبْغِضُهُ وَيُعَادِيهِ قِبَلَهُمْ فَإِنَّهُ لَا يَقُومُ بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالِ إِلَّا مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ مَا سِوَاهُمَا. Ne peut agir ainsi, nous dit l'auteur, rahimahullah, que celui dans le cœur duquel Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam sont plus aimés que quiconque. Dès lors qu'il éprouve cet amour véridique et qu'il fait passer en priorité le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam, car nous sommes en train de parler de l'immigration vers lui et de ce que cela implique, et parmi ce que cela implique, c'est de le faire passer avant. Et celui qui le fait passer avant va observer la droiture, l'équité, en suivant sa voie, quand bien même il ferait face aux gens qui lui sont les plus proches. C'est pour ça que l'auteur nous parle de ce verset, rahimahullah. Eh bien, ne peut agir ainsi, nous dit l'auteur, rahimahullah, que celui dont le cœur est rempli d'amour pour le messager d'Allah, alayhi salat wa salam, et qu'il a fait devancer à quiconque parmi les gens. وَهَذَا يَمْتَحِنُ بِهِ الْعَبْدُ إِيمَانَهُ. Et c'est par cela que le serviteur teste sa foi. Teste sa foi. فَيَعْرِفُ مَنْزِلَةَ الْإِيمَانِ مِنْ قَلْبِهِ وَمَحَلَّهُ مِنْهُ. Il connaît alors le degré de la foi qu'il a. En voyant, s'il applique la justice et suit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, même s'il s'agit de ses proches parents, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je jure par Allah que si Fatima, fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, volait, je lui couperais la main. Ça, c'est le fait justement d'appliquer cette justice, quand bien même il s'agirait de quelqu'un proche. Voilà comment était le messager alayhi salatu wa sallam. Wa aksu hadha adlul abdi fi a'da'ihi wa man yansha'uh. Et inversement aussi, la justice que doit établir la personne envers son ennemi qui le déteste. Même si la personne te déteste et qu'elle est ennemie de toi, tu te dois d'être juste et d'observer la droiture dans ton comportement, ta façon d'agir envers elle. فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَحْمِلَهُ بُرْضُهُ لَهُمْ عَلَىٰ أَنْ يَجْنَفَ عَلَيْهِمْ. L'aversion que la personne éprouve pour ses ennemis ne doit pas la pousser à transgresser avec eux. كَمَا لَا يَنْبَغِي أَنْ يَحْمِلَهُ حُبُّهُ لِنَفْسِهِ وَوَالِدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ عَلَىٰ أَنْ يَتْرُكَ الْقِيَامَ عَلَيْهِمْ بِالْقِسْطِ. Tout comme l'amour que la personne éprouve pour ses parents, ses bien-aimés, ses proches et autres, ne doit pas l'empêcher d'établir la justice sur eux. فَلَا يُدْخِلُهُ ذَلِكَ الْبُرْضُ فِي بَاطِلٍ. Cette aversion éprouvée pour l'ennemi ne le pousse pas à tomber dans le faux. وَلَا يَقْصُرُ بِهِ هَذَا الْحُبُّ عَنِ الْحَقِّ. Et cet amour que la personne a pour ses proches et bien-aimés ne la pousse pas non plus à délaisser la vérité. كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ. Comme cela est rapporté de certains salafs, العادل هو الذي إذا غضب لم يدخله غضبه في باطل. Celui qui est juste est celui dont la colère ne l'a pas poussé dans le faux. وإذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق. Et dont la satisfaction ne le pousse pas à délaisser la vérité. Ce récit a été jugé faible en raison de la présence d'un des rapporteurs que les savants du hadith ont déclaré comme étant un kadhab, un menteur dont on n'accepte pas les récits, mais le sens est juste. Il n'y a aucun doute que le sens est juste. Que la personne qui est juste établit l'équité envers celui qu'elle aime et celui qu'elle déteste. فاشتملت الآيتان على هذين الحكمين. وَهُمَ الْقِيَامُ بِالْقِسْطِ وَالشَّهَادَةُ بِهِ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَعْدَاءِ. L'on voit dans ces deux versets l'ordre d'être juste et d'observer le témoignage avec justice aussi envers les ennemis et les alliés. Dans la suite du verset, Allah Azza wa Jalla nous dit: ثُمَّ قَالَ تَعَالَى إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا. Dans le sens rapproché du verset, qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre, Allah a priorité sur deux. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre, c'est-à-dire celui sur lequel nous sommes amenés à témoigner ou à apporter un témoignage. Que ce soit quelqu'un de riche ou quelqu'un de pauvre, Allah Azza wa Jal a priorité pour nous qui témoignons sur deux. Dans le sens où celui qui est Ou alors je vais vous lire d'abord la parole de l'imam Ibn al-Qayyim. Ay, in yakun al-mashhudu alayhi ghaniyan tarjuna wa tu'ammiluna 'awda manfa'ati ghinahu alaykum fala taqumuna alayhi aw faqiran fala tarjunahu wa la takhafuna fallahu awla bihima minkum. Dans le sens aussi, la personne à l'égard de laquelle on apporte un témoignage est une personne riche dont on espère ou dont on attend l'utilité de son argent au point de nous empêcher de dire la vérité concernant cette personne, ou alors est une personne pauvre et dont la pauvreté nous pousse à ne pas aussi établir l'équité envers elle, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala doit être pour nous prioritaire à eux. Parce que ce témoignage, cette justice, nous devons l'appliquer pour Allah subhanahu wa ta'ala, non pas pour un intérêt ou toute autre chose, mais simplement parce qu'elle est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا مِنْكُمْ هُوَ رَبُّهُمَا وَمَوْلَاهُمَا وَهُمَا عَبْدَاهُ كَمَا أَنَّكُمْ عَبِيدُهُ. Ce sont deux des serviteurs d'Allah, tout comme vous aussi vous l'êtes. Vous êtes des esclaves d'Allah, ils le sont aussi. Vous êtes assujettis aux ordres d'Allah, comme ils le sont. C'est donc en Allah que vous devez espérer et envers lui, et à lui que vous devez vous attacher. فَلَا تُحَابُوا غَنِيًا لِغِنَاهُ. Vous ne devez donc pas, à cause de la convoitise de ce qu'a le riche, être empêché de témoigner de la vérité. وَلَا تَطْمَعُوا فِي فَقِيرٍ لِفَقْرِهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَى بِهِمَا مِنْكُمْ. De même pour le pauvre, car Allah a priorité sur eux deux. Un autre sens a été apporté aussi, nous dit l'imam Al-Qayyim dans ce verset. وَقَدْ يُقَالُ فِيهِ مَعْنًا آخَرْ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا. Un sens qui peut être meilleur que le premier précité. وَهُوَ أَنَّهُمْ رُبَّمَا خَافُوا مِنَ الْقِيَامِ بِالْقِسْطِ وَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ أَمَّا الْغَنِيُّ فَخَوْفًا عَلَى مَالِهِ وَأَمَّا الْفَقِيرُ فَلِإِعْدَامِهِ وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ فَتَتَسَاهَلُ النُّفُوسُ فِي الْقِيَامِ عَلَيْهِ بِالْحَقِّ فَقِيلَ لَهُمْ اللَّهُ أَوْلَى بِالْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ مِنْكُمْ أَعْلَمُ بِهَذَا وَأَرْحَمُ بِهَذَا فَلَا تَتْرُكُوا أَدَاءَ الْحَقِّ وَالشَّهَادَةَ عَلَى غَنِيٍّ وَلَا فَقِيرٍ. L'autre sens, c'est que le verset, le riche et le pauvre qui sont cités dans ce verset, à cause desquels il arrive souvent que la personne n'apporte pas le vrai témoignage à leur égard, la raison qui pousse certaines personnes à ne pas le faire, c'est la peur de voir les biens du riche disparaître, comme une pitié pour le riche. La peur que si je dis la vérité, eh bien, il va en découler une sanction ou autre qui va lui faire perdre tout ce qu'il possède. Et la peur pour le pauvre qui lui ne possède rien. Donc, c'est comme aussi une pitié, car il se verra peut-être, si j'apporte mon témoignage, redevable de quelque chose alors qu'il est pauvre. Vous comprenez? Donc, à cause de cela, on va délaisser le vrai témoignage. Et là, les savants disent dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala est plus connaisseur de leur état et leur situation. Il est plus connaisseur de la situation du riche. Il sait ce qu'il va advenir de ce riche. Et il est plus miséricordieux que vous ne l'êtes envers ce pauvre. La justice doit, quoi qu'il en soit et coûte que coûte, être établie ou observée strictement. Ne délaissez donc pas le témoignage de la vérité pour une de ces raisons, pour un riche ou pour un pauvre. Puis il dit, فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا. Dans le sens rapproché de la suite du verset, ne suivez donc pas les passions afin de ne pas dévier de la justice. نَهَاهُمْ عَنِ اتِّبَاعِ الْهَوَىٰ الْحَامِلِ عَلَىٰ تَرْكِ الْعَدْلِ. Allah a interdit de suivre les passions, ces passions qui empêchent d'observer la justice. Dès lors que la personne suit ses passions, elle n'observe pas la justice. وقوله أن تعدلوا منصوب الموضع على أنه مفعول لأجله وتقديره عند البصريين كراهية أن تعدلوا أو حذار أن تعدلوا فيكون اتباعكم الهوى كراهية العدل وفرارا منه وعلى قول الكوفيين التقدير ألا تعدلوا وقول البصريين أحسن وأظهر. Puis dans la parole d'Allah عز وجل ألا تعدلوا. Afin de ne pas appliquer la justice ou de ne pas dévier de la justice. Certains ont dit, c'est-à-dire ne suivez pas vos passions qui vous feront détester la justice. Parce que la passion, c'est quoi? C'est quelque chose à quoi le cœur est attaché. Ça peut être une personne, une idée, un intérêt mondain ou quoi que ce soit d'autre. Et dès que cette passion entre dans le cœur, la personne déteste la justice car la justice contredit ses passions. Et cela est interdit. Thumma qala ta'ala, et enfin à la fin du verset, وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Et si vous portez un faux témoignage, ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal va nous parler de deux choses. La première chose, lorsqu'on a lu le faux témoignage, la réalité de ce qui est voulu, c'est le fait de falsifier. Et la deuxième chose, c'est de se détourner. C'est-à-dire, pour suivre les passions, la personne falsifie la vérité. Elle la change. Elle lui donne un autre sens. Elle lui donne une autre tournure pour la faire pencher vers ce à quoi elle adhère comme passion. Comme les égarés dans la croyance du tawhid, des noms, des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui ont expliqué les versets traitant d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et de la description des noms et des attributs d'Allah, azza wa jal, ils les ont interprétés à leur manière et les ont falsifiés. Ils en ont changé les sens, ou alors ils ont même été jusqu'à changer les formations des mots. Car dès lors que le mot n'est plus le même, le sens n'est plus le même. Eh bien Allah Azza wa Jal dit à ces gens-là, et ceux qui les ressemblent, à ceux qui leur ressemblent, que s'ils falsifient ou se détournent tout simplement, là ils ne falsifient pas mais ils se détournent de la vérité, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. ذكر سبحانه السببين الموجبين لكتمان الحق محذرا منهما متوعدا عليهما. Ce sont les deux causes poussant la personne à cacher la vérité qui ont été citées par Allah subhanahu wa ta'ala. La première, أحدهما اللي, la falsification. La deuxième, الآخر الإعراض, le détournement. Ce sont les deux causes poussant la personne à cacher la vérité qu'elle connaît. Soit elle se détourne de la vérité, soit elle lui donne une fausse interprétation. Et c'est aussi une forme de non-application de la vérité, mais avec une ruse, comme le font les gens de l'innovation et les gens des passions. Ça peut être dans la croyance, mais ça peut aussi être dans des choses de la vie de tous les jours que la personne dont la personne connaît le jugement et le caractère illicite, la personne a l'habitude de faire ces choses. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va interpréter tous les versets et les hadiths qui interdisent cette chose, en disant ça ne parle pas exactement de cette chose-là, ça ne parle pas de cette époque, ce n'est pas ça qui est voulu, ce n'est pas ça qui a été dit, le hadith n'est pas authentique, et j'en passe. Tout ça encore une fois pour cacher la vérité qu'elle connaît dans son fort intérieur et ne pas l'appliquer au final. L'auteur rahimahullah dit فَإِنَّ الْحَقَّ إِذَا ظَهَرَتْ حُجَّتُهُ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَرُومُ دَفْعَهَا طَرِيقًا إِلَى دَفْعِهَا أَعْرَضَ عَنْهَا وَأَمْسَكَ عَنْ ذِكْرِهَا فَكَانَ شَيْطَانًا أَخْرَصْ وَتَارَةً يَلْوِيهَا أَوْ يُحَرِّفُهَا. Cette phrase-là, écoutez-la bien et retenez-la. Car dans les égarements, dans la croyance, dans le manhaj, dans la méthodologie, eh bien, c'est la cause de beaucoup des égarements. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit, lorsque la réalité apparaît avec ses preuves et que la personne voulant la repousser ne trouve aucun moyen pour le faire, elle s'en détourne, elle n'en parle pas, elle devient alors un diable muet. La personne qui ne veut pas de cette vérité. Et elle ne trouve aucun moyen pour la repousser. Elle est apparue avec preuve dans toute sa clarté. Elle est explicite. la personne qui n'en veut pas, n'arrivant pas à repousser cette vérité, car elle serait alors dévoilée, et les gens diraient tous, il repousse la vérité, que va-t-elle faire? Elle va s'en détourner et ne jamais la mentionner. Elle ressemblera alors à un shaitan akhras, un shaitan muet. Voilà, yadou billah, parce qu'elle n'a pas dit la vérité. Et parfois, au lieu de s'en détourner totalement sans en parler, elle va en parler, mais en l'interprétant, en la falsifiant, en lui donnant un autre sens. Encore une fois, pour fuir au final l'application de cet ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. واللي مثل الفتل وهو التحريف وهو نوعان لي في اللفظ ولي في المعنى. La falsification se divise en deux. Il y a la falsification du terme ou la falsification du sens. On l'a étudié en détail dans Al-Aqidatul Wasatiyya. Les égarés dans le domaine de la croyance, ne voulant pas adhérer à la croyance authentique vis-à-vis des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou les égarés de manière plus générale dans n'importe quel domaine, vont falsifier les textes. Il existe deux manières de le faire. La première, c'est la falsification des termes, c'est-à-dire de changer le mot, soit en lui ajoutant, en lui retirant une lettre, soit en changeant les voyelles. Car en arabe, les voyelles et leur position, lorsqu'elles sont changées, peuvent donner un autre sens au mot. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا » et Allah a parlé à Moussa de vive voix, les gens des passions ont dit, au lieu de dire « وَكَلَّمَ اللَّهُ » Moussa taklima, ils ont dit wa kallama Allah Moussa taklima, et là ça veut dire et Moussa a parlé à Allah de vive voix, pour en sortir au final avec la conclusion que ce verset n'est pas une preuve qu'Allah parle, car ce verset Allah n'a pas voulu dire qu'il parle, mais il a voulu dire que Moussa a parlé, donc ce n'est pas une preuve qu'Allah parle, parce que ces gens-là n'adhèrent pas à la croyance en la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ce que l'on appelle al-layu fil lafz, la falsification, le changement du terme dans le mot. Ça peut être aussi al-layu fil ma'na, le changement du sens. Allah subhanahu wa ta'ala a dit bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha, mais plutôt ses deux mains sont tendues, il dépense comme il veut. Ils ont dit non, ça ne veut pas dire cela. Le mot yad ici, il veut dire autre chose, telle et telle chose. Et ils lui ont donné d'autres interprétations. Là, ils n'ont pas touché au mot, ni à sa forme ou ses voyelles et sa terminaison. Mais ce à quoi ils ont touché, c'est son sens. Dans les deux cas, ils ont falsifié la vérité, ne voulant pas l'appliquer. فَاللَّيُّ فِي اللَّفْضِ أَنْ يَلْفَضَ بِهَا عَلَى وَجْهٍ لَا يَسْتَلْزِمُ الْحَقِّ إما بزيادة لفظة أو نقصانها أو إبدالها بغيرها أو ليا في كيفية أدائها وإيهام السامع لفظا ومراده غيره كما كان اليهود يلوون ألسنتهم بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les juifs le faisaient avec le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام. Ils changeaient les mots quand ils s'adressaient à lui. Qu'est-ce que l'on dit aux croyants que l'on rencontre dans la rue? Assalamu alaykum. Les juifs le voyant lui disaient Assalamu alaykum. Ils lui faisaient croire qu'il disait Assalamu alaykum, alors qu'en réalité ils ont changé le mot Assalam avec le mot Assam. Et Assam c'est la mort. Donc en réalité ils se faisaient passer pour des gens saluant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en réalité lui souhaitait la mort. Wal'iyadu billah. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur répondait « Wa alaykum » et sur vous aussi. Vous pensez qu'ils vont être exaucés? Et vous pensez que le prophète va être exaucé? Naam, sans le moindre doute. C'est pour cette raison que quand Aïcha radiyallahu anha a entendu cela, elle s'est mise en colère et elle s'est mise à les insulter. Et là le prophète alayhi salatu wa sallam lui a signifié que sa réponse était suffisante. Vous aussi, et on verra après à qui cela arrivera. Et c'est arrivé à Taïeb. فَهَذَا أَحَدُ نَوْعَيِ اللَّيِّ وَالنَّوْعُ الثَّانِ مِنْهُ لَيُّ الْمَعْنَى وَهُوَ تَحْرِيفُهُ وَتَأْوِيلُ اللَّفْظِ عَلَى خِلَافِ مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ بِهِ وَتَحْمَلُهُ عَلَى مَا لَمْ يُرِدْهُ أَوْ يُسْقِطُ مِنْهُ بَعْضَ مَا أَرَادَ بِهِ وَنَحْوَ هَذَا مِنْ لَيِّ الْمَعَانِي. Et tout ça, c'est ce que je vous ai dit. فَقَالَ تَعَالَى وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Et donc Allah Azza wa Jal leur dit, dans le sens du verset, que s'ils falsifient ou qu'ils se détournent, Allah est parfaitement informé de ce qu'ils font. Subhanahu wa ta'ala. وَلَمَّا كَانَ الشَّاهِدُ مُطَالَبًا بِأَدَاءِ الشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا فَلَا يَكْتُمُهَا وَلَا يُغَيِّرُهَا كَانَ الْإِعْرَاضُ نَظِيرَ الْكِتْمَانِ وَاللَّيُّ نَظِيرَ تَغْيِيرِهَا وَتَبْدِيلِهَا فَتَأَمَّلْ مَا تَحْتَ هَذِهِ الْآيَةِ مِنْ كُنُوزِ الْعِلْمِ. Médite, nous dit l'auteur rahimahullah, ce que contient ce verset comme trésor de science. والمقصود أن الواجب الذي لا يتم الإيمان بل لا يحصل مسمى الإيمان إلا به مقابلة النصوص بالتلقي والقبول. Ce qui est voulu ici, après avoir dit tout ça, nous dit l'auteur rahimahullah, c'est de comprendre que l'obligation sans laquelle la foi ne peut être complète ou la personne ne peut avoir la foi, cette obligation, c'est de recevoir les textes avec acceptation. وَالْإِظْهَارُ لَهَا وَدَعْوَةِ الْخَلْقِ إِلَيْهَا لَا تُقَابَلُ بِالْإِعْرَاضِ تَارَ وَبِاللَّيِّ أُخْرَى. On ne doit pas faire face aux textes, aux ordres d'Allah Azza wa Jal et du messager sallallahu alayhi wa sallam, soit par le détournement, soit par la falsification. Mais plutôt ce qui montre la foi de la personne qui dit aimer Allah Azza wa Jal et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'accepter ces textes, de les recevoir comme ils sont, de les appliquer, de les suivre et plus encore d'y appeler les gens. Ça, c'est la preuve de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'auteur rahimahullah passe à une autre preuve qui sera la troisième, montrant l'obligation d'émigrer vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, en d'autres termes, le suivre, l'imiter, le prendre pour modèle et délaisser toute autre voie que la sienne. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Dans sourate Al-Ahzab, dans le sens rapproché du verset, il nous dit: il n'appartient pas à un croyant ni à une croyante, après qu'Allah et son messager aient donné un ordre, d'avoir encore le choix dans la façon d'agir. Dès qu'Allah Azza wa Jal a ordonné, ou le messager sallallahu alayhi wa sallam, après cet ordre, le croyant n'a plus le droit de choisir comment il va réagir, ce qu'il va faire, ce qu'il va ne pas faire. Il n'a plus le droit de cela. فدل هذا على أنه إذا ثبت لله ولرسوله في كل مسألة من المسائل حكم طلبي أو خبري فإنه ليس لأحد أن يتخير لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه وأن ذلك ليس لمؤمن ولا مؤمنة أصلا فدل على أن ذلك مناف للإيمان. On voit dans ce verset que dès lors que un jugement nous vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes les questions, parmi les questions religieuses, mondaines ou autres, et que cet ordre relève du domaine de l'interdit, du licite ou de l'illicite, ou alors de la croyance, peu importe que cet ordre Vous savez, quelqu'un a dit Hissu dhubabi yadhhabu bil lubab. C'est-à-dire, le toucher de la mouche fait perdre la concentration. La personne est captivée ou concentrée. Une petite mouche vient se poser sur son nez et toute sa concentration part. C'est tellement intéressant de voir ces gouttes d'eau qui tombent de ce climatiseur. C'est plus intéressant que l'objet du cours. Allahu musta'an. Je disais donc que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit dès lors qu'un jugement est ramené, est cité d'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce jugement relève des ordres et interdits ou de la croyance à avoir, il n'appartient à personne de choisir autre chose que ça. De dire oui, mais tel maître, tel shir, tel tariqa, tel gourou, telle pensée, tel imam, telle personne. Kullu hadha batil. Tout ceci est caduque. C'est un texte clair. Dès qu'il y a une preuve, tu n'as pas à répondre « Oui, mais un tel a dit. Oui, mais nous avons fait telle et telle chose. Ou alors nous avions telle et telle habitude. » Tout cela est faux. Tout cela doit disparaître devant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le croyant à la base n'a même pas ce comportement, ne doit même pas avoir ce comportement. Ce comportement contredit la foi. Car Allah Azza wa Jal a parlé de ceux qui agissent ainsi par la foi. Il n'appartient pas à un croyant ou une croyante. Puis il leur a interdit d'agir ainsi. وَقَدْ حَكَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. Il est rapporté de façon authentique de l'imam al-Shafi'i rahimahullah. L'imam al-Shafi'i est un des grands imams de la sunna, un grand imam du tawhid rahimahullah ta'ala. Il était versé dans les sciences et très doué, rahimahullah. Et l'imam al-Shafi'i a combattu les innovations. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et il nous a cité des règles de méthodologie dans la croyance et dans la voie à suivre, qui ne cessent d'être suivies par toute personne adhérant à la vérité. Ici, al-Shafi'i, rahimahullah, a dit « Les musulmans sont unanimes. » Les musulmans, les sahaba, les tabi'un, leurs suiveurs, les savants, les gens de la sunna, sont unanimes pour dire que dès que la sunna apparaît clairement, il n'appartient à personne de la délaisser pour suivre la parole d'une autre personne parmi les gens. C'est pour ça qu'il a dit aussi « Ida sah al-hadith fa huwa madhhabi ». Dès lors que le récit est authentifié, alors il est mon opinion, il est ma croyance, il est ma méthodologie. Et pour cette raison, l'imam Shafi'i rahimahullah, quelques avis étaient rapportés de lui, peut-être que ce sont des avis pour lesquels, à son époque, la preuve ne lui était pas parvenue. Mais dès que ses élèves, après sa mort, ont trouvé la preuve du Coran et de la Sunna qui contredit ce qu'avait dit l'imam Shafi'i, ses élèves disaient, c'est l'avis de l'imam Shafi'i. Pourquoi? Parce que l'imam Shafi'i, il a laissé une règle avant de mourir. Il a dit, dès que vous voyez le hadith qui est sahih, sachez que c'est ma voie, c'est ma croyance, c'est ma méthodologie. Même s'il ne m'est pas parvenu, je cherche les hadiths authentiques. S'il m'était parvenu, je l'aurais appliqué. Et s'il ne m'est pas parvenu, et que j'ai appliqué autre chose, parce qu'il ne m'est pas parvenu, je ne suis qu'un homme, un humain, eh bien, dites à tout le monde que mon avis, ce n'est pas ce que je vous ai dit, mais c'est ce que vous avez lu du Coran et de la Sunna, car moi, je m'efforce de suivre le Coran et la Sunna. Hadi tarbiya salafiya mubaraka. Ça, c'est une éducation salafiya bénie. C'est la voix du prophète Muhammad alayhi salat wa salam, et tous les savants de la Sunna ont des paroles dans ce sens. Il dit ensuite: وَلَا يَسْتَرِيبُ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ فِي صِحَّةِ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّ الْحُجَّةَ الْوَاجِبَ اتِّبَاعُهَا عَلَى الْخَلْقِ كَافَّةً إِنَّمَا هُوَ قَوْلُ الْمَعْصُومِ الَّذِي لَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى وَأَمَّا أَقْوَالُ غَيْرِهِ فَغَايَتُهَا أَنْ تَكُونَ سَائِغَةً لِلِاتِّبَاعِ لَا وَاجِبَةَ لِلِاتِّبَاعِ فَضْلًا عَنْ أَنْ تُعَارَضَ بِهَا النُّصُوصُ وَتُقَدَّمَ عَلَيْهَا عِيَاذًا بِاللَّهِ مِنَ الْخِذْلَانِ. Aucun des savants de l'islam ne doute de l'authenticité du sens de la parole de l'imam Shafi'i, rahimahullah. Son sens est authentique. La parole est authentique du point de vue de sa narration et son contenu. Aucun savant de l'islam n'a jamais douté de la réalité de ce que veut dire cette parole. Car la preuve qu'il est obligatoire de suivre à tout le monde, c'est la parole de l'infaillible. Sallallahu alayhi wa sallam. L'infaillible, c'est qui? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Lui seul est infaillible. Il est protégé par Allah azzawajal de l'erreur dans sa religion. Il ne va pas te donner un avis qui peut être une erreur. Autre que lui peut le faire. Lui, non. Il est infaillible, alayhi salatu wa sallam. Il n'y a que lui qui l'est. Contrairement à ce que disent les chiites, qui ont des imams qu'ils ont déclarés infaillibles, wal'iyadu billah. Abu Bakr ne l'était pas, Omar non plus, Uthman Ali, qu'Allah les agrée, les quatre meilleurs sahaba, les quatre califes. Comment, autre que, pourrait l'être? C'est une parole très grave dans la croyance de dire cela. La yantiqu anil hawa, il ne parle pas sous l'effet de la passion, alayhi salatu wassalam. Quant aux paroles d'autres que lui, alayhi salatu wassalam, le maximum que l'on pourrait dire, si ces paroles étaient vraies, authentiques, des jugements authentiques, c'est que il est permis de les suivre. Mais on ne dit pas, il est obligatoire de suivre la parole de quelqu'un. On peut dire, il est permis de suivre la parole de quelqu'un, dès lors que cette parole est en conformité avec la vérité. Mais on ne dit pas, il est obligatoire de suivre la parole de quelqu'un. Comprenez la différence? Sauf le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, sa parole, on a l'obligation de la suivre. Alors que, autre que lui, on a l'obligation de prendre cette parole et de la mesurer à la lumière de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si elle concorde, on la suit. Non pas parce que c'est la parole d'un tel, mais parce qu'elle concorde avec la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Et on ne doit pas non plus s'opposer au texte par les paroles d'un tel et un tel parmi les gens. Qu'Allah nous en préserve. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, wa qala ta'ala, قُلْ أَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولُ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. On s'arrête ici pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et on reprend demain, bi'idhnillah, wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.